Europe 1.
8h13, votre invité Sonia Mabrouk est l'un des nouveaux questeurs de l'Assemblée nationale.
Oui, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Woerth.
Bonjour.
Vous avez donc été élu au nom de la majorité présidentielle questeur de l'Assemblée nationale. Vous êtes trois au total, dont Éric Ciotti pour l'opposition LR. Alors on qualifie ce poste de questeur, je le dis pour nos auditeurs, de poste stratégique et très très confortable. Vous n'allez pas me démentir ?
Il est stratégique au sens où c'est la gestion de l'Assemblée, pas la gestion politique de l'Assemblée, mais la gestion des moyens de l'Assemblée, son budget, son personnel, les moyens des parlementaires, et puis les travaux. C'est un poste très opérationnel, évidemment très important, et qui est collégial. Une personne de l'opposition, Éric Ciotti en l'occurrence, mm-hmm. et deux personnes de la majorité, Marie Guévenoux et moi-même.
Que répondez-vous ce matin, Éric Woerth, à ceux qui affirment que votre transfert avec armes et bagages vers la Macronie n'aura pas été totalement vain avec ce poste à la clé ?
Oui, on peut toujours gloser. Je pense que si... Je ne sais pas quoi dire, ça, parce que c'est l'idée que
vous
on se vend
souvent,
pour un plat de lentilles.
Vous voulez plus y répondre, oui.
Non, mais je fais la formule, on se vend pour un plat de lentilles. Je ne me suis pas vendu. J'ai été là où mes convictions me portaient. Et j'ai pensé que Emmanuel Macron représentait le bon président pour la France à ce moment-là. Et je confirme que je pense toujours la même chose, et de plus en plus, même si c'est évidemment difficile. Donc après, j'ai un certain nombre de mandats à l'Assemblée nationale. Si on regarde tous ceux qui ont utilisé, quand il y a eu des postes à l'Assemblée, il y en a beaucoup, beaucoup depuis de nombreuses années. Ce n'est pas un parcours atypique. J'étais président de commission des finances et puis je suis maintenant questeur. C'est un parcours absolument normal. De toute façon, on est élu, je vais vous dire. Et j'étais élu, il y avait 6 candidats à ce poste.
C'est une élection. Alors justement, parlons de ces postes. Il y en a d'autres tout aussi importants. Éric Woerth, il y a le fait qu'il y ait deux vice-présidents Rassemblement National à l'Assemblée. Est-ce que, à vos yeux, c'est un signal rassurant par rapport au fonctionnement de nos institutions, ou est-ce, comme certains le disent, inquiétant parce que le RN se hisse à de tels postes aujourd'hui ?
Les deux, mais c'est la composition
c'est une
de l'Assemblée.
Façon de pas répondre. Comment
c'est
ça, les deux ?
Non, mais je vais répondre. C'est la composition de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, sa composition est complexe. Il y a une extrême gauche puissante, un groupe NUPES, certes il y a plusieurs groupes à l'intérieur, mais ils ont été élus sous la même bannière qui s'appelle NUPES, et puis l'extrême droite qui a près de 90 députés, donc c'est considérable, quand les Républicains n'en ont que 60, donc c'est considérable, et donc il n'y a pas de majorité, tout le monde l'a bien compris, on ne parle que de ça depuis 15 jours, donc il n'y a pas de majorité absolue, une majorité, une forte majorité relative des groupes majoritaires, mm-hmm. les trois groupes qui composent la majorité. Mais ça nécessite des compromis, ça nécessite de discuter. Évidemment, dans la représentation de la structure de l'Assemblée en elle-même, les vice-présidents, etc., etc. C'est une photographie de cette Assemblée.
Donc, c'est une photographie conforme.
Que
c'est
le Rassemblement
logique
national
ait
deux vice-présidents, il y en a 6, c'est logique.
Bon, mais alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a un partage des postes et une entente entre la majorité, vous-même, les LR et le RN, pour écarter la NUPES de ces postes stratégiques ? Est-ce que dénonce depuis
vraiment,
hier la France insoumise.
Pas vraiment, puisque la NUPES est très représentée également dans les organes, dans le bureau, au fond, de l'Assemblée nationale. Et puis je dis que c'est comme ça, c'est l'arithmétique, c'est pas de la politique, c'est l'arithmétique. Et d'ailleurs, avant, la dernière fois, et très très souvent, il n'y avait même pas d'élection. Pour tout vous dire, ça choquait personne. Il n'y avait pas d'élection, puisqu'il y avait une répartition des postes de l'Assemblée, pardon de le dire, proportionnelle, grosso modo. Il y a des points, et c'est proportionnel à la représentativité de chaque groupe. Et chaque groupe regardait les postes qu'il voulait occuper. Et puis après, il y avait des bagarres internes dans les groupes. Et puis, s'il y avait un accord, on présentait une seule liste complète de l'Assemblée nationale, représentant le bureau, et il n'y avait pas de vote. Là, il y a eu 5-6 heures de vote hier.
Attendez, juste à ma question, quand je vous ai dit, est-ce qu'il y a un partage ? Vous m'avez dit pas vraiment. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a une entente, oui ou non ? Parce que pas vraiment, ça peut laisser supposer qu'il y a une forme d'entente entre vous tous.
C'est pas une entente,
c'est
que vous constatez qu'il y a 89 députés, que de l'autre il y en a 245, que dans le troisième il y en a 120, et donc ça s'impose. Les postes se répartissent à proportion, ce qui est parfaitement logique. C'est la conséquence de la formation de l'Assemblée elle-même. Ah. Donc tous ceux qui cherchent à voir des accords politiques là-dedans, soit ils n'y connaissent rien, soit ils mentent.
Ah bon ? Donc il faut voir, il n'y a pas une pincée de politique, il n'y a pas une pincée de stratégie.
Non, il n'y a pas d'accord politique. Les accords politiques, ça viendra sur les textes. À un moment,
ça,
c'est l'Assemblée, elle est là pour ça. Elle est là pour voter des textes, faire des lois, contrôler la loi, contrôler le gouvernement. Et ça, c'est le travail de l'Assemblée. Il faut maintenant qu'il commence.
Peut-être qu'il y aura de la politique maintenant, Éric Woerth, pour ce poste ô combien stratégique et convoité, celui que vous occupez encore aujourd'hui. En tout cas, vous l'avez occupé un certain temps, la présidence,
cinq ans,
la présidence de la Commission des finances qui sera tranchée aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire, Éric Woerth, que la France insoumise, si elle s'emparait de ce poste, en ferait un outil de contrôle fiscal?
Ben, c'est tout simplement ce qu'on entend ici ou là. On lit ce que disent des responsables de cette formation. C'est pas vraiment une formation politique, de cette coalition politique qu'on appelle encore NUPES. C'est ce qu'ils disent.
Ils ont dit ouvertement
de lire les choses.
Ils disent qu'ils
sont intéressés par l'idée
fiscaux.
Que le président de la commission des finances, qui dispose, c'est vrai, de pas mal de pouvoir, et on ne peut pas lui opposer le contrôle fiscal, ou plutôt le secret fiscal, pardon. Mais c'est pas pour devenir un super agent de la direction des finances publiques et des services de contrôle fiscal. C'est uniquement pour orienter la politique fiscale. On est là pour faire de la politique fiscale ou pour contrôler que les mesures fiscales et les lois fiscales sont adaptées aux situations. Bon, mais si vous allez voir les dossiers fiscaux des entreprises ou des particuliers dans une fin de pur contrôle et éventuellement de dénonciation, ça c'est différent, c'est un dévoiement de cela.
Mais vous le craignez, Éric Woerth, c'est-à-dire que selon vous...
On a le droit
vous...
de le craindre, c'est mieux de le dénoncer avant, c'est mieux de le craindre pour que ça ne se passe pas comme ça.
Et soit c'est un procès d'intention, soit vraiment vous avez des craintes sur les intentions de la France Insoumise.
C'est pas un procès d'intention, c'est ce qui pourrait se passer, c'est ce qui pourrait se passer sur des pouvoirs utilisés de façon contraire à la raison de leur existence.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter cela ?
Ben, il faudrait que les membres de la commission des finances qui voteront, comme dans toutes les commissions, puissent décider que ce soit quelqu'un d'autre. Sauf que l'arithmétique, elle va parler. L'arithmétique va sans doute
parler. Il y a un peu de politique. Ma question, est-ce que ce matin, vous pourriez assumer de préférer un candidat RN en la personne de Jean-Philippe Tanguy pour éviter Éric Coquerel, par ailleurs, vous avez de l'estime pour sa personne, il ne s'agit pas de qualité personnelle, mais pour éviter que la France insoumise détienne ce poste
Et moi, je préférerais que ce soit la candidate LR qui soit élue. Ben oui, si vous me demandez ma préférence, je vous donne ma préférence.
Je préférerais
que ce soit la candidate
d'être
LR.
D'être lucide,
bon,
ce matin.
Ma lucidité m'appelle à poser un principe. Je pense que le principe, qui a d'ailleurs prévalu exactement il y a 5 ans, et on avait eu ce même débat, le principe, c'est que c'est pas à la majorité de choisir son opposition. Parce que dans ce cas-là, ça devient assez compliqué.
Monsieur Woerth, c'est difficile de faire le nini aujourd'hui et
ce
matin.
Mais je ne fais pas nini, je suis très précis. Ça veut dire que la majorité ne prend pas part au vote. C'est ça la réalité. C'est très concret et c'est un choix. Même si, évidemment, j'imagine que la majorité préférait quelqu'un d'autre pour présider la commission des finances que quelqu'un issu de l'extrême-gauche. Mais, encore une fois, ce sont les conséquences de la formation
Mais
de l'Assemblée.
Si
L'Assemblée,
face...
elle est constituée
Éric
comme
Bart,
ça.
Si
les Français ont voulu la constituer comme ça.
Bien.
Les Français ont voulu des contre-pouvoirs. On nous le dit tous les 3 jours.
Mais vous avez dénoncé quand même quelque chose qui pourrait être assez grave. C'est-à-dire que vous dites que les dossiers fiscaux pourraient être jetés en pâture et que donc le secret fiscal est menacé. Donc si je vous pose action entre 2 candidats, de la NUPES et du RN, où voyez-vous le moindre mal ?
Oui, je
voulais pas y répondre.
J'arrête pas de vous répondre à ça. Je peux sauter, je peux faire de la gymnastique.
Je ne vous demande pas tant ce matin.
C'est assez simple. Si, j'aimerais bien. Mais c'est assez simple en réalité. Il y a une arithmétique et cette arithmétique, elle vaut pour ça. Si vous commencez à tordre la réalité de l'Assemblée nationale. Chacun est élu, on peut se combattre les uns les autres, et Dieu sait que c'est le cas. Mais chacun est élu et chacun est député de la République, quel que soit le parti auquel il appartienne. Il y a une lucidité, une réalité, c'est les Français qui l'ont voulu, et je pense que cette réalité, il ne faut pas aller contre. Il faudra à un moment donné, quand on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'examen des textes, évidemment, c'est plus la même histoire.
On va en parler avec justement peut-être en appui les LR, mais par rapport à cette présidence, encore une question de la commission des finances, les LR auront un choix important, en tous les cas un poids important tout à l'heure, c'est votre ancienne famille politique. Est-ce que vous leur dites qu'il faut bien réfléchir avant cette élection.
Déjà,
vous voulez pas donner
une grande partie de LR n'a pas donné de consigne de vote au deuxième tour des élections législatives. C'est le cas dans mon département, alors que j'étais opposé à un rassemblement national. Donc attention quand même. Il faut faire très attention aussi à la porosité entre LR et le Rassemblement national, et plus généralement la banalisation du Rassemblement national.
Ah, c'est eux
on
qui
peut
banalisent,
pas banaliser le Rassemblement national.
C'est les LR
national.
Qui banalisent le Rassemblement national. Il n'y a pas eu certains.
Moi, j'ai vu un exemple. C'est clair. Vous avez eu plein d'élections législatives. C'est des trucs très très concrets. Vous savez, il y a eu une banalisation par LR local, LR de l'Oise, une banalisation.
Et pas par la majorité.
Tout à fait
la majorité a toujours été claire et rigoureuse dans ces élections législatives entre la NUPES et le RN.
Absolument claire.
En êtes-vous sûr?
Oui, j'en suis sûr.
Au sujet des LR justement et des nouvelles têtes, il y a quelques jours à votre place, je recevais Olivier Marleix, nouveau président du groupe LR à l'Assemblée. Voici ce qu'il a dit. « Je ne me laisserai pas acheter, je suis incorruptible », en référence aux mains tendues par vous tous, par la majorité. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il fait preuve de cohérence et de droiture?
Enfin, tout le monde fait preuve de droiture. Monsieur Marleix, il n'a pas le monopole de la droiture, ça se saurait, quoi. Et d'ailleurs, c'est une très mauvaise. J'ai trouvé cette interview assez mauvaise en réalité. Mais laissons cela. Il est mauvais parce qu'il se situe sur un champ qui n'existe pas.
Quelle
drôle de manière de présenter les choses.
Je vous dis
la réalité des choses. Soit LR continue à se rabougrir. Ils étaient 100, on était 100, la dernière, on est maintenant 60, et on dit que c'est une victoire. Ben, c'est pas une énorme victoire. Quand il y aura la 30, on verra ce qu'on dira. Donc la question, elle est de savoir, est-ce que LR ouvre les yeux de façon lucide sur ce qu'il y a? Il faut être beaucoup plus courageux pour le dire et pour le faire et pour en tirer les conséquences que pour ne rien faire, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc il ne faut pas continuer à se fermer comme des huîtres. Il faut tenter d'essayer de faire vivre les valeurs de droite dans l'action de réforme qui doit être celle du pays.
Donc soit c'est le rabougrissement,
c'est mon opinion intime.
Ouais.
Et les électeurs le disent. Les électeurs le disent depuis de nombreuses années. Ils renvoient LR dans leur chaumière depuis déjà de nombreuses années.
Attendez, c'est soit le rabougrissement, soit ils deviennent les supplétifs d'Emmanuel Macron. C'est ça ce que vous promettez à votre ancienne famille politique.
Vous avez une vision du monde en noir et blanc. C'est plus compliqué que cela. Qui parle de supplétif? Pourquoi tout le temps insulter? Ça commence à bien faire les insultes dans la vie politique, mais vraiment à bien faire. Il y en a qui sont encore et d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce que c'est que cette manière de présenter les choses? Moi, je veux bien que tout le monde perde la tête, mais il faut revenir un tout petit peu, un peu de sagesse, un peu d'expérience, et puis un peu de respect aussi, de temps en temps, les uns pour les autres. Il n'y a pas de supplétif, il y a juste des gens qui pensent que l'avenir de la droite, elle passe aussi par le travail sur la réforme du pays. Et il y a un parti plus large qui s'appelle Renaissance ou Horizon, comme vous le souhaitez, qui représente cela avec un président de la République qui a essayé de casser des clivages qu'on nous reprochait avant. Ces mêmes clivages, on nous les reprochait. Donc il y a des sociaux-démocrates qui travaillent avec des gens de centre-droit, européens, libéraux, gaullistes. Le gaullisme, c'est exactement ça. Tous ceux qui se parlent dans le gaullisme, en réalité, dévoient et enterrent le gaullisme chaque jour.
Vous êtes remonté ce matin, qu'est-ce qui se passe?
Je ne suis pas remonté. Il faudra faire preuve de beaucoup de caractère. Et j'en ai un tout petit peu assez des gens qui n'ont aucun caractère et qui vantent la force de caractère.
À bon entendeur, vos amis, vos anciens amis vont être étonnés ce matin.
Pas mes anciens amis, ça reste mes amis. Ça reste mes amis à partir du moment où de temps en temps ils ouvrent un peu les yeux, où ils se demandent si l'Europe c'est quand même pas si mal, si au fond il y a peut-être une vision
d'une
droite
de la lucidité
demain
par
et sur 5 ans prochaines. Bah, je pense avoir fait preuve d'une bien plus grande lucidité que la plupart de ceux qui sont tout simplement restés confortablement assis dans leur fauteuil avec la même étiquette et de voir cette étiquette se dégrader, se défaire, se dessécher au fur et à mesure du temps.
Et pourtant vous avez besoin de cette étiquette aujourd'hui.
Ils ont participé à ça. Eh bien on leur tend la main. Tends la main comme d'autres.
Est-ce qu'on donne une gifle avant de tendre la main?
Il ne faut pas se dire les choses entre. Moi, je dis les choses. Honnêtement, ils me les disent aussi. Donc, je les dis. Mais on peut évidemment faire un grand bout de chemin ensemble. Ça ne peut pas être uniquement du texte par texte. Ça ne peut pas être de l'amendement par amendement. D'ailleurs, le président de la commission des finances, il a aussi la responsabilité de décider de la recevabilité des amendements. Donc, aucun député ne pourra déposer des amendements qui augmentent les charges du pays. Donc, tout ce qui concerne des surenchères vis-à-vis de texte ne peut pas passer dans le domaine de l'amendement. Donc il doit bien y avoir à un moment donné un accord. Et il y a plein de sujets sur lesquels on peut être d'accord. L'état de nos finances publiques, la transition écologique, tout ça c'est très important.
Vous, Éric Woerth, l'homme de l'orthodoxie budgétaire, ou du moins du sérieux des comptes, j'imagine que ça doit être dur en ce moment. Bah, une dette publique
mais c'est dur depuis des années. C'est dur d'empiler les crises et d'avoir des réponses publiques.
On aimerait bien vous entendre aujourd'hui. Tel niveau incontrôlable des dettes. Est-ce que vous ne tirez pas la sonnette d'alarme?
Je l'ai déjà tiré, je l'ai dit, à force de tribune, d'intervention.
Mais aujourd'hui, vous êtes dans la majorité, vous êtes plus proche de ceux qui gouvernent.
Oui, mais j'ai bien l'intention de faire entendre évidemment cette voix. Les finances publiques ont servi à étancher la crise. C'est vrai dans d'autres pays, et d'ailleurs entre nous, d'autres pays ont dépensé plus que la France.
Donc on continue.
Mais la France partait dans une situation plus difficile. Donc la seule réponse, c'est le travail. La réponse, c'est la croissance. La seule réponse, c'est la réforme. La seule réponse, c'est l'augmentation des impôts par l'activité, et pas par la modification de la structure fiscale, par l'activité, on le voit en 2022 d'ailleurs, l'augmentation, les impôts rapportent plus parce que l'économie tourne, il y a plus de 50 milliards d'euros qui rentreront dans les caisses qui n'avaient pas été prévues. Mais on a besoin d'avoir le quoi qu'il en coûte doit être terminé, il faut probablement accroître la protection d'un certain nombre de Français contre l'inflation, mais ça ne peut être que quelque chose de ciblé et d'extrêmement progressif. Et je rappelle d'ailleurs aussi que si ces dépenses qui ont été votées par toute l'Assemblée, faut quand même le redire, elle est comprise. Donc toutes ces dépenses de lutte contre la crise ont sans doute permis que la crise ne soit pas plus approfondie que ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle aurait coûté sans doute encore beaucoup plus cher, à peu près. Tous les calculs ont été faits pour le montrer. Mais on doit maintenant choisir l'investissement par rapport au fonctionnement. Plus d'investissement, plus de croissance, plus de réalisme, plus aussi sans doute de choix et de priorités. Savoir choisir ses priorités,
voilà,
et moins de dépenses de fonctionnement. Je peux vous donner des chiffres, mais ça ennuiera tout le monde.
Oh non,
et moins de
tout,
dépenses de fonctionnement.
Monsieur le questeur, monsieur le nouveau questeur de l'Assemblée nationale, je vous remercie Eric Woerth d'avoir accordé cette première interview en tant que questeur à Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci Eric Woerth et merci Sonia.